Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir, la Presse et le Soleil. Au programme, Histoire du Canada, l'économie sociale, durable, inclusive et plus que locale, Tout le monde en parle, courageux Daniel Carcillo, et de nouvelles primes pour les cliniques privées. Bonne écoute!
Histoire du Canada. Un texte de Jean-François Lisée, paru le 15 février 2023 dans Le Devoir. Nous étions estomaqués. La phrase prononcée par le premier ministre d'une province amie, telle une flèche empoisonnée, faisait plusieurs fois le tour de nos têtes. La conversation terminée, Lucien Bouchard nous dit, à ses quelques conseillers, « Ne répétez jamais ce que vous venez d'entendre ». Nous étions certains, comme lui, que si ça se savait, la réputation de l'auteur de ces mots ne s'en relèverait pas. L'enjeu était le même qu'aujourd'hui. Le fédéral allait-il augmenter son financement de la santé? Nous étions en février 1999. Le gouvernement de Jean Chrétien avait fait payer aux provinces son propre retour au déficit zéro et voguait désormais vers des surplus. Pas nous. Une coalition s'était formée pour réclamer une augmentation des transferts. Bouchard n'était pas, au début, dans la coalition. Il craignait qu'Ottawa ne s'ingère dans la compétence des provinces en santé en échange d'un financement additionnel. Les autres provinces lui firent une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Si le fédéral créait de nouveaux programmes ou posait de nouvelles conditions, le Québec obtiendrait un droit de retrait avec compensation. L'argent, mais sans fil attaché. Bouchard ne pouvait refuser. Les premiers ministres se parlaient fréquemment, comme ce jour-là, la veille de la rencontre fédérale-provinciale. Le premier ministre de l'Alberta, le bouillant Ralph Klein, voulait nous parler. Klein était le Régis Labeaume de l'Ouest, direct, volubile, imagé. Avec l'Ontario, l'Alberta était historiquement l'allié la plus solide. Bouchard activa le mode main libre. Nous, les séparatistes québécois, étions évidemment toujours les derniers informés. La somme qu'Ottawa était prêt à mettre dans la santé semblait plus importante que prévu, rapporta Klein. De combien? Il disait ne pas le savoir. Mais, en échange du pactole promis, Ottawa souhaitait faire signer un document appelé « Union sociale ». Loin d'incorporer la revendication du Québec, il donnait une assise juridique à une revendication du Canada, la reconnaissance de son droit de dépenser dans les champs de compétences des provinces, un permis pour l'ingérence. « Cher Ralph, dit Bouchard, comment réagis-tu à la proposition fédérale ?» Et Ralph de lancer « Show me the money ». Au diable des pouvoirs, ce que je veux, c'est l'argent. Il n'y avait dans ces mots pas la moindre inhibition, pas la moindre conscience qu'il pulvérisait ainsi la totalité du rapport de force construit pendant des mois. L'expression avait été rendue célèbre par le film « Jerry Maguire », où Tom Cruise joue un agent de sportif obsédé par le fric plutôt que par le sport. On estima que Klein allait probablement revenir à la raison, qu'une position aussi dénuée de principes ne pouvait survivre à la lumière du jour. « Nous avons fait à Bouchard la promesse de protéger la réputation de l'Albertain jusqu'au tombeau. » Le lendemain, interrogé par les journalistes sur sa stratégie de négociation, Klein tonna dans les micros « Show me the money », ce qui nous déliait de notre vœu de silence. Mais le reste de la coalition allait-il tenir et faire rentrer Klein dans le rang? Combien de milliards avait promis Chrétien pour obtenir sa reddition? Le président de ce qu'on n'appelait pas encore le Conseil de la Fédération était Roy Romano, de la Saskatchewan. il convoqua Bouchard à son hôtel à Ottawa pour lui annoncer qu'en tant que représentant des provinces, il appuyait la proposition fédérale à 150 %. Il lui dit qu'il avait parlé aux collègues pour les en convaincre aussi. Le sort en était jeté, le Québec était largué, isolé. En 1981, Romano était ministre de la Justice de la Saskatchewan et avait à ce titre négocié le ralliement des provinces au rapatriement de la Constitution, au détriment du Québec. Comme dans cette nuit de 1981, Romano fut, en 1999, l'agent de Chrétien dans la Maison des provinces, l'instrument de l'isolement du Québec. N'y aurait-il pas un seul allié d'hier prêt à nous soutenir? Glenn Clark, de la Colombie-Britannique, appela Bouchard pour tâter le terrain. Un autre premier ministre l'appuyait-il? Bouchard lui répondit que, pour l'instant, il n'y en avait pas, mais qu'il serait heureux d'avoir son appui. Ce dernier rétorqua qu'il ne pouvait pas, politiquement, être seul à appuyer le Québec. Vous comprenez? Bouchard comprenait très bien. Il dirigeait un gouvernement séparatiste, l'ennemi intérieur. Le lendemain, les premiers ministres furent conviés au 24 Sussex. Chrétien servit la soupe. Nous étions convaincus qu'il avait fait connaître à l'avance aux autres provinces le montant qu'elles allaient encaisser et que nous-mêmes allions connaître le tarif convenu par nos alliés d'hier pour renoncer à leur virginité provinciale dans la nouvelle union sociale. Mais nous découvrions, incrédules, que ni pendant le déjeuner ni auparavant Chrétien n'avait donné de chiffres. Il avait obtenu la signature des provinces à l'expansion du pouvoir fédéral de dépenser sans avoir montré le bout de son portefeuille. L'histoire du Canada bégait. La récente et sinistre série de négociations a un air de déjà-vu. François Legault et compagnie ont appris a posteriori qu'un pilier de leur coalition, l'Ontarien Doug Ford, avait fumé le cigare en août au chalet de Dominique Leblanc, le ministre homme de main de Justin Trudeau dans l'opération. Le lendemain de la rencontre où Trudeau a annoncé qu'il ne livrerait qu'un sixième de la revendication des provinces, Ford et Leblanc en ont fumé un autre. Puis, la vice-première ministre Chrystia Freeland a publiquement félicité Ford pour l'aide prodiguée dans le dossier. On comprend mieux les airs de chien battu et la démobilisation des membres de la coalition lorsqu'on intègre cette donnée centrale. L'Ontario était une taupe d'Ottawa. Le Canada est un casino où la maison gagne à tous les coups. C'était « Histoire du Canada », un texte de Jean-François Lizé, paru le 15 février 2023 dans Le Devoir.
L'économie sociale, durable, inclusive et plus que locale. Un texte de Anil Côté, paru le 15 février 2023 dans la presse. Anil Côté est directrice générale du Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal. Au cours des trois dernières années, la pandémie, l'inflation galopante et l'accroissement des inégalités, associées à la crise climatique, nous ont montré notre grande vulnérabilité. Celle-ci s'est traduite dans nos chaînes d'approvisionnement, mais aussi dans notre capacité à répondre à nos besoins et à ceux de nos collectivités durement fragilisées. À ces grands défis, nous répondons que l'économie sociale est une solution pour une société plus inclusive, durable et solidaire. Portée par des entreprises innovantes, l'économie sociale a répondu présente face aux enjeux des dernières années en démontrant sa grande résilience et son agilité, et elle continue de le faire. Pourquoi choisir et privilégier l'économie sociale? Cette façon différente de faire de l'économie met l'humain au cœur de ses décisions, privilégie le bien commun et les besoins des collectivités. L'économie sociale est plus qu'une entreprise locale. Bien sûr, elle se déploie localement, alors que 76% des entreprises collectives desservent un marché régional. Toutefois, dans son ADN, c'est avant tout une entreprise qui répond à une mission sociale. Sa portée est aussi plus que locale, car chaque dollar d'achat investi dans une entreprise collective a des retombées équivalentes dans la communauté. Et non, l'économie sociale n'est pas marginale au Québec. À Montréal seulement, l'économie sociale maintient plus de 67 000 emplois directs, génère 11,7 milliards de dollars de revenus annuels et représente près de 2 800 entreprises, OBNL et coopératives, dans l'île. Elle fait donc partie intégrante de la structure économique montréalaise et de notre quotidien. Si l'on pense au Centre de la petite enfance, CPE, aux services d'aide à domicile et aux aînés, aux entreprises d'insertion socio-professionnelle ou à celles qui favorisent l'accès à des aliments sains, à la culture, au sport et aux loisirs, à un logement abordable ainsi qu'à des espaces publics et naturels. L'économie sociale prend de l'ampleur au Québec. Il y a tout juste un an, le gouvernement dévoilait sa stratégie des marchés publics, priorité à l'achat québécois qui vise à favoriser l'achat de biens et de services québécois et qui représentera, d'ici 2026, une hausse de 1,5 milliard de dollars pour les entreprises d'ici. Cette stratégie vise aussi plus largement à ce que les organismes publics et les municipalités s'approvisionnent davantage localement. Pour atteindre cet objectif, soutenir l'achat auprès des entreprises d'économie sociale est incontournable. Mieux, il faut accélérer le mouvement. Déjà, 35 grandes institutions publiques et privées québécoises ont rejoint l'économie sociale « J'achète », une initiative montréalaise du Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal, CESIM, qui vise à accroître les partenariats et à soutenir l'achat auprès des entreprises d'économie sociale. À ce jour, ce sont d'ailleurs plus de 1 800 contrats entre les institutions publiques et privées et les entreprises d'économie sociale participantes qui ont été signés pour une valeur de plus de 55 millions de dollars. Choisir de faire affaire avec l'économie sociale, c'est opter pour une économie plus juste, plus inclusive et plus solidaire, qui répond aux besoins des communautés sans compromettre ceux du futur. Son objectif ultime n'est pas le profit, mais plutôt le bien-être des collectivités. Le mouvement est en marche et continuera de grandir grâce au soutien des citoyens et citoyennes, des organisations, petites ou grandes, privées ou publiques, qui choisissent l'économie sociale au quotidien. Serez-vous le prochain à rejoindre le mouvement? C'était l'économie sociale, durable, inclusive et plus que locale, un texte de Anil Côté, paru le 15 février 2023 dans la presse.
Tout le monde en parle, courageux Daniel Carcillo, un texte de Normand Provencher paru le 19 février 2023 dans Le Soleil. L'ex-hockeyeur de la Ligue nationale de hockey, Daniel Carcillo, venu spécialement de Floride, a livré un témoignage fort courageux à Tout le monde en parle dans la foulée des troublantes révélations sur des cas d'agression sexuelle et de torture commis contre des joueurs juniors canadiens dont lui-même a été victime. Il mérite amplement le titre d'étoile de la soirée. Carcillo, qui a porté les couleurs de 6 équipes dans le circuit Batman, était à la retraite depuis 3 ans lorsqu'il a entendu un joueur universitaire s'ouvrir publiquement sur le sujet. Toutes les émotions sont alors revenues à la surface. « J'avais 16 ans à l'époque », a-t-il confié dans une entrevue sous-titrée pour l'occasion. « Aujourd'hui, comme père, je ne veux pas que mon enfant s'approche d'une patinoire. » Les abus dont il a été l'objet l'ont poussé à faire mal aux autres sur la glace. Son agressivité s'est traduite de différentes façons. « Ça m'a fait descendre très bas », a-t-il indiqué, ajoutant qu'il a fini par trouver la paix en suivant une thérapie. Le chroniqueur sportif Martin Leclerc a dénoncé cette semaine les abus et les agressions lors d'initiation au hockey junior. Le chroniqueur sportif de Radio-Canada, Martin Leclerc, qui a sorti l'histoire en début de semaine, a été troublé par tout ce qu'il a pu lire dans le rapport du juge appelé à entendre la demande d'action collective des 3 plaignants. « J'ai eu de la difficulté à écrire le papier. J'ai eu l'impression qu'on franchissait la frontière entre la civilisation et la barbarie. » Même si ces présumés cas d'agression remontent à plusieurs années, Martin Leclerc estime qu'il reste un fond de ça dans les ligues juniors canadiennes. À cet égard, le chroniqueur a rapporté des cas de recrues qui seraient taxés par les vétérans dans certaines équipes et qui seraient forcés d'attendre après eux pour manger au buffet lorsque l'équipe est sur la route. C'était « Tout le monde en parle », courageux Daniel Carcillo, un texte de Normand Provencher paru le 19 février 2023 dans Le Soleil.
De nouvelles primes pour les cliniques privées, un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. Les cliniques privées qui réalisent des opérations pour le compte du réseau public recevront dorénavant une prime de 10% ou 20% pour les interventions complexes, ainsi qu'une bonification de 5% ou 15% pour les patients en attente depuis 6 mois ou plus. Le gouvernement Legault a récemment formulé une directive destinée aux établissements de santé qui encadrent les futurs contrats avec le privé. Depuis la pandémie de COVID-19, les centres médicaux spécialisés, CMS, qui effectuent des interventions chirurgicales pour le réseau public, bénéficient d'une marge de profit de 15% plutôt que de 10% comme par le passé. Les ententes à cet effet, conclues en 2020 dans le but de rattraper le retard en chirurgie, ont été prolongées jusqu'au 31 mars 2023. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S, a publié le 22 décembre 2022 une circulaire balisant certains éléments des futures ententes avec les CMS, les laboratoires d'imagerie médicale et les autres cliniques privées. La marge bénéficiaire de 15% disparaît des contrats, mais de nouvelles primes apparaissent, Le modèle de bordereau de prix, présenté dans la directive, est basé sur le coût de l'opération dans le réseau public, coûts directs et fournitures, un rajustement financier de ces coûts, selon le CMS, ainsi qu'une bonification pour la complexité et pour le temps d'attente du patient. La prime pour un acte de complexité moyenne s'élève à 10 % et grimpe à 20 % pour une intervention encore plus complexe. Les CMS obtiennent par ailleurs une bonification de 5 % lorsque le patient opéré attend son intervention depuis 6 mois à 1 an et de 15 % quand cela fait plus d'un an. C'est à ce chapitre que la directive fait sourciller. Pourquoi offrir au CMS une prime liée au temps d'attente? Offrir un incitatif à la réduction majeure des listes d'attente considérées comme hors délai, répond le ministère dans un courriel. Les CMS n'ont pourtant aucun levier sur l'ordre dans lequel le centre intégré à prioriser les patients, indique Annick Mongeau, qui représente notamment Hop Médic et Chirurgie 1030. Un CI3S et des chirurgiens contactés par Le Devoir le confirment. Les établissements de santé déterminent et fournissent aux cliniques la liste des patients devant être opérés. Je comprends l'objectif, mais je doute que ce soit le meilleur moyen pour permettre au ministre d'atteindre les cibles qu'il a établies, dit Mme Mongeau. D'après elle, la directive soulève pour le moment beaucoup plus de questions qu'il n'y a de réponses. Maude Laberge, professeur en économie de la santé à la Faculté de médecine de l'Université Laval, s'interroge aussi sur cette prime. L'établissement n'a pas vraiment intérêt à transférer ses patients qui attendent depuis longtemps, parce que ça va lui coûter plus cher, observe-t-elle. Au M3S, on indique que cette majoration est offerte pour la première année seulement de l'entente, d'une durée minimale de 3 ans et maximale de 5 ans. La pérennité des contrats devrait inciter les CMS à investir dans certains équipements nécessaires à la réalisation de certaines interventions plus complexes, ajoute le ministère. Ainsi, les CMS pourront contribuer davantage à la réduction de la liste d'attente. Trop cher payé ou pas? Il est difficile d'évaluer, à partir de la directive, combien les contribuables paieront exactement pour les opérations réalisées en CMS. La professeure Laberge juge néanmoins problématique que le gouvernement bonifie le tarif offert aux cliniques par rapport à ce que ça nous coûte dans le réseau public. L'avantage potentiel des cliniques spécialisées, c'est qu'elles devraient avoir des coûts de fonctionnement plus faibles qu'un gros hôpital qui a une diversité de services et qui doit avoir des plateaux techniques plus complets, affirme-t-elle. Si les coûts de fonctionnement sont plus faibles dans les centres médicaux spécialisés, ceux-ci devraient avoir des tarifs plus faibles que ceux des hôpitaux. Sinon, on est en train de payer plus cher pour des services. Madame Laberge estime que la répartition du risque entre le CMS et l'établissement de santé dans les futurs contrats sera intéressante. Par exemple, lorsqu'un patient ne se présentera pas à son rendez-vous chirurgical, la clinique devra assumer les coûts directs et indirects de l'opération. L'établissement de santé devra faire de même si le médecin annule une intervention le jour même pour des raisons médicales. Le M3S resserre aussi la clause de non-recrutement d'employés d'établissements publics avant la fin d'un délai de 90 jours suivant leur départ du réseau. En cas de non-respect de cette clause, il prévoit une pénalité d'un an de salaire de la personne salariée concernée. Cette dernière ne pourra d'ailleurs pas traiter des cas provenant d'établissements pendant les 90 jours suivant son embauche, y stipule-t-on. Une cible impossible à atteindre d'ici mars. Plus de 20 500 personnes étaient en attente d'une intervention chirurgicale depuis plus d'un an au 31 décembre 2022, selon le M3S. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'était fixé pour objectif d'atteindre le seuil de 3 000 d'ici le 31 mars 2023. Il est illusoire de croire que cette cible sera atteinte, selon le Dr Serge Legault, vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et co-président de comité du rattrapage en chirurgie du M3S. L'attaché de presse du cabinet du ministre Dubé, Antoine de la Durantaye, en convient. Bien que nous constations présentement une tendance à la baisse depuis quelques semaines, on doit être réaliste. Ce sera difficile d'atteindre notre objectif fixé au 31 mars, dit-il. Ce dernier précise que le problème des listes d'attente depuis plus d'un an se concentre principalement dans trois spécialités, soit la chirurgie générale, l'otorhino-laryngologie et l'orthopédie. Les données que nous avons maintenant peuvent nous aider à prendre les bonnes décisions et à nous concentrer sur les cas les plus urgents, ajoute-t-il. C'était « De nouvelles primes pour les cliniques privées », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Lepage, Hélène Lamarche à la lecture, Diane Métallier et Suzanne Beauchamp à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.